VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du mercredi 8 juin 2016. À la une ce soir.
Lutte contre Boko Haram, 2000 soldats tchadiens vont prêter main forte au Niger à la requête du président Mahamadou Issoufou.
Au Nigeria voisin, le groupe rebelle vengeur du delta du Niger rejette l'offre de dialogue du gouvernement.
Des enquêteurs onusiens recommandent que les dirigeants érythréens soient traduits devant la Cour pénale internationale pour grave violation des droits humains.
L'Afrique pleure le coach nigérian Stephen Keshi, décédé à 54 ans d'une crise cardiaque.
États-Unis politique, Hillary Clinton est assurée de représenter le parti démocrate à la présidentielle de novembre et la pression monte pour que son adversaire Bernie Sanders abandonne la course. Les primaires prennent fin à Washington DC dans une semaine.
Et bien sûr, l'économie et les sports juste après le journal.
Lutte contre Boko Haram, quelques 2000 soldats tchadiens lourdement équipés se dirigeaient aujourd'hui vers le Niger. Ils ont pour ordre de traquer partout les djihadistes nigérians. C'est ce qu'indique une source militaire tchadienne citée par l'AFP. Mesure qui fait suite à la visite du président du Niger, Mahamadou Issoufou, au Tchad hier. André Konmajingar.
Après l'attaque de la ville de Bosso au Niger le 3 juin dernier par la secte Boko Haram, le Tchad et le Niger viennent de conclure un nouvel accord de coopération militaire. Un contingent de 2000 soldats tchadiens est déjà sur le terrain malgré que le Tchad ait rappelé ses troupes en intervention au Niger, au Nigeria et au Cameroun il y a plus de 8 mois pour faire place à la force mixte multinationale créée par les pays frontaliers engagés dans cette guerre asymétrique qu'impose Boko Haram. Ces soldats tchadiens engagent déjà ce matin aux côtés de leurs frères d'armes nigériens une opération de ratissage. Opération qui d'ailleurs a commencé à Bosso, théâtre de bataille où Boko Haram a infligé une lourde perte aux soldats nigériens pour s'étendre progressivement vers Difa. Pour le président en exercice de l'Union africaine Idriss Déby Itno, c'est par la négligence des pays engagés dans cette guerre que Boko Haram a profité pour occuper le terrain. Car, dit-il, la force mixte n'a pas été opérationnelle sur le terrain faute des moyens nécessaires. Et donc, quels que soient les maigres moyens humains et matériels dont dispose le Tchad, il faut agir le plus tôt que possible. Cette nouvelle coopération est conclue entre Mahamadou Issoufou du Niger et Idriss Déby Itno du Tchad ce mardi 7 juin 2016 à N'Djamena. André Kodumadingar, N'Djamena pour VOA Afrique.
Au Nigeria, le groupe rebelle vengeur du delta du Niger rejette l'offre de pourparlers proposée lundi par le gouvernement. Bagassi Koura.
Dans un message sur son compte Twitter, le groupe affirme qu'il n'est engagé dans aucune négociation avec aucun comité. Si le gouvernement fédéral discute avec certains groupes, ils le font de leur propre initiative, dit le groupe Les Rebelles du Delta. Le groupe affirme également avoir fait exploser vers 0h mercredi un puits du géant pétrolier américain Chevron à proximité immédiate d'une station de pompage installée aux alentours de la ville de Wari dans l'état du Delta. Ces derniers mois, ces rebelles s'en sont pris aux installations des filiales nigérianes, des grands groupes pétroliers étrangers Shell, Eni, Chevron et de la compagnie d'État nigériane NNPC. Selon le secrétaire d'État, la recrudescence des attaques contre les installations pétrolières ont fait chuter la production de brut à 1,6 million de barils par jour, bien en deçà des 2,2 millions prévus dans le budget 2016, déjà amputé par la chute mondiale des cours de brut. Les vengeurs du delta du Niger se décrivent comme des hors-la-loi émérites et réclament l'indépendance des régions du delta, mais ont assuré jusqu'à présent que leur combat serait pacifique.
Des représentants de l'opposition congolaise en conclave en Belgique, parmi eux l'opposant historique Étienne Tshisekedi. Les consultations visent à adopter une position commune, exigeant la tenue de la présidentielle avant le terme du mandat du président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila.
Le parquet général de la République a remis à l'ambassade des États-Unis en RDC son compatriote Louis, poursuivi dans l'affaire de mercenaires dans l'ex-province du Katanga, pour qu'il puisse être retourné dans son pays. C'est ce qu'a annoncé l'avocat général de la République. La mise à disposition aux autorités américaines de ce ressortissant ne signifie pas que le dossier est clos. Le procureur Victor Mumba, au micro de Top Congo FM à Kinshasa.
Le parquet général de la République a tenu à vous communiquer cette importante affaire, vous faire cette importante communication. Il venait de recevoir Monsieur l'ambassadeur des États-Unis, James Swan, en sa qualité de représentant, comme je venais de le dire, des États-Unis, pour lui présenter son concitoyen qui se trouve être poursuivi conjointement avec nos compatriotes dans l'affaire que vous avez connue, qu'on appelle l'affaire des mercenaires. Et à cette occasion, ce monsieur, ce compatriote américain a été mis à sa disposition pour qu'il puisse être retourné dans son pays. Le retour dans son pays ne signifie pas que le dossier est clos pour autant. Parce qu'il se poursuit en même temps ici, de la même manière qu'il se poursuivra là-bas. Et étant donné qu'il y a de ces éléments qui sont au niveau des États-Unis et que nous ne pouvons pas avoir ici, nous le ferons accompagner d'une commission rogatoire internationale en vue d'obtenir ces éléments. Et les États-Unis, comme vous le savez, étant un pays épris de paix, de justice, ces éléments ne pourront que nous être donnés pour nous aider dans la bonne poursuite de cette instruction.
Les enquêteurs onusiens recommandent au Conseil de sécurité de l'ONU de se pencher sur la situation en Érythrée, suggérant que les dirigeants de ce pays soient poursuivis par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Maëlys Hegel.
Viol, castration, noyade, esclavage, emprisonnement, torture, ce n'est qu'une liste non exhaustive des crimes contre l'humanité commis en Érythrée depuis 1991 et répertoriés dans un rapport de la commission d'enquête sur les violations des droits de l'homme de l'ONU, publié ce mercredi à Genève. État autoritaire, l'Érythrée est un pays où il n'y a pas de pouvoir judiciaire indépendant, pas d'assemblée nationale et pas d'institution démocratique. Le rapport de l'ONU souligne que les Érythréens sont confrontés entre autres à des détentions arbitraire. Un témoignage d'une femme détenue par la police est particulièrement frappant. Elle explique comment chaque jour, pendant ses 6 mois en prison, elle a été violée par le chef d'un poste de police qui menaçait de la tuer si elle osait parler. En conséquence, en plus de porter le dossier de la situation en Érythrée devant le procureur de la CPI, la commission demande aux États membres de l'ONU de poursuivre ou d'extrader tout individu suspecté de crimes internationaux présents sur leur territoire. Depuis 1993, l'Érythrée est dirigée d'une main de par le régime d'Isaias Afewerki, que fuient les Érythréens pour se réfugier en Europe, principalement en Suède, Allemagne, Suisse et Pays-Bas.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un ancien agent de la CIA, Sabrina de Sousa, condamné à 4 ans de prison en Italie, va être extradé du Portugal après que la Cour constitutionnelle portugaise a rejeté son appel final. Claire Morin-Gibourg.
Sabrina de Sousa fait partie des 26 agents de la CIA, l'agence centrale de renseignement américaine, qui avait été jugée et condamnée en juin 2007 en Italie pour les transferts illégaux de détenus dans le cadre de la lutte américaine contre le terrorisme. Ils avaient notamment enlevé en pleine rue à Milan en 2003 l'imam salafiste égyptien Oussama Mustafa Hassan Nasr, connu sous le nom d'Abu Omar, qui était soupçonné de terrorisme. Suite à son enlèvement, Abu Omar sera renvoyé en Égypte et torturé pendant 4 ans dans une prison égyptienne. Sabrina de Sousa a indiqué ne pas avoir été impliquée dans cet enlèvement. Son avocat italien est confiant, il espère l'indulgence des autorités italiennes, le président italien Sergio Mattarella ayant déjà accordé la clémence à d'autres accusés reconnus coupables dans cette affaire. Les programmes américains de transfert de suspects hors de tout cadre judiciaire, utilisés comme stratégie de lutte contre le terrorisme, ont été arrêtés par le président Barack Obama.
Les rebelles syriens ont réussi à rouvrir une route de ravitaillement clé dans la province d'Alep après avoir mis en échec une offensive du groupe État islamique. Ce dernier est attaqué sur plusieurs fronts en Syrie comme en Irak. Ailleurs, dans cette même province du nord syrien, les secteurs tenus par les rebelles dont le chef-lieu d'Alep ont été la cible de raids de l'aviation du régime de Bachar al-Assad et qui ont tué 15 civils et 7 rebelles selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. La guerre en Syrie, qui a débuté en 2011 par la répression de manifestations pro-démocratie, est devenue plus complexe au fil des ans avec l'implication d'une multitude d'acteurs syriens, régionaux et internationaux. Elle a fait plus de 280 000 morts et des millions de déplacés et de réfugiés.
Les autorités afghanes réfutent les rapports de police faisant état de l'enlèvement de près de 50 passagers ce matin dans la province de Kunduz, dans le nord de l'Afghanistan. Selon le général Mohamed Kassim Jangalbar, responsable de la police provinciale, le bus transportait 47 personnes et les forces de sécurité ont pu en délivrer quelques-unes. Une opération est en cours de planification pour libérer le reste des otages, a-t-il ajouté. Cependant, un porte-parole du gouverneur de Kunduz a dit au service afghan de la Voix de l'Amérique que seulement 18 passagers ont été enlevés par les insurgés et 10 d'entre eux ont été libérés. Il a précisé que tous les passagers étaient des civils expulsés d'Iran et qui voulaient regagner leur maison. C'est le deuxième rapt collectif à Kunduz et le troisième en Afghanistan en 9 jours.
Le Premier ministre indien a appelé au renforcement des relations entre son pays et les États-Unis, en particulier dans la lutte contre le terrorisme. Narendra Modi s'adressait ce matin à une session unique des deux chambres du Congrès américain.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. La Minute Éco avec John Linden.
L'Afrique du Sud a enregistré un recul de 1,2% de son PIB au premier trimestre selon les statistiques officielles publiées ce mercredi, faisant planer la menace d'une récession pour l'économie la plus industrialisée du continent qui tourne au ralenti depuis près de 2 ans. L'Afrique du Sud avait déjà été au bord de la récession en 2014 à cause de grèves à répétition et en 2015 en raison de coupures récurrentes d'électricité, mais l'avait à chaque fois évité de justesse. Les autorités congolaises ont signé lundi à Kinshasa un accord confiant à un consortium chinois la construction d'une centrale hydroélectrique de 240 MW destinée à combler une partie du déficit énergétique freinant la production minière en République démocratique du Congo. Le barrage de Busanga, en aval de 2 autres centrales existantes sur le cours supérieur du fleuve Congo au Katanga, doit être réalisé dans les 5 prochaines années. Le coût de la construction n'a pas été révélé. Un singe a provoqué une panne d'électricité qui a touché tout le Kenya mardi matin en chutant sur un transformateur électrique à Gidaru, a expliqué dans un communiqué le plus gros producteur d'électricité du pays. L'incident a duré près de 4 heures avant que le courant ne soit rétabli.
Place au sport avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgan.
Le monde du football en deuil avec la mort de Stéphane Keshi.
Il s'est éteint la nuit dernière, selon la Fédération nigériane de football. Stéphane Keshi, 54 ans, est mort d'une crise cardiaque à Benin City, dans l'ouest du Nigeria. Il est le seul joueur dans l'histoire à avoir remporté une Coupe d'Afrique des Nations en tant que joueur et entraîneur.
Vous entendrez tout à l'heure une réaction de Claude Leroy, le sélectionneur du Togo. On parle argent et gros sous.
La star du football portugais Cristiano Ronaldo est désormais le sportif le mieux payé de la planète, avec, tenez-vous bien, 88 millions de dollars de revenus en 2016. À la faveur du départ à la retraite du boxeur Floyd Mayweather. C'est le classement établi par le magazine américain Forbes. LeBron James, vedette de Cleveland en basket, occupe la 3e place avec plus de 77 millions de dollars devant Roger Federer, l'ancien numéro 1 mondial de tennis. Puis vient Kevin Durant, le joueur d'Oklahoma City.
Préparation olympique en basket.
L'équipe nationale masculine de basket sénégalaise a débuté à Dakar son stage de préparation pour le tournoi qualificatif olympique prévu en juillet à Manille, aux Philippines, sous la houlette de Porfirio Fisac de Diego, le nouveau sélectionneur. Interpellé après la première séance de l'Espagnol, Malen Doy, le capitaine de l'équipe sénégalaise de basket.
Nouvelle aventure, il y a une nouvelle équipe, il y a un nouveau staff, il y a presque nouveau tout. C'est bien de découvrir un peu les nouveaux joueurs, de travailler avec le nouveau coach. Donc on a vu, c'est une ambiance différente. Il essaie d'amener de nouvelles règles, faire tout ensemble. Je pense qu'il amène l'unité dans l'équipe et c'est très important de le faire dès le début. Chaque coach a ses méthodes. Je pense que lui, le plus important, on voit dans le jeu déjà, il y a une liberté de jeu, mais précis. C'est pas liberté n'importe comment, c'est avec des règles précises. Et le meneur de jeu qui, par exemple, joue les pics pour faire les passes, les grands qui jouent au poignet et les ailiers qui shootent. C'est assez classique, mais c'est assez simple, mais c'est aussi structuré.
C'était Malen Doy au micro, Dame d'Insi.
Tennis, Sharapova suspendue pour 2 ans.
La joueuse de tennis russe a été suspendue 2 ans pour dopage au meldonium, un médicament inscrit depuis le 1er janvier sur la liste des produits interdits. C'est ce qu'a annoncé la Fédération internationale de tennis. L'ancienne numéro 1 mondiale, âgée de 29 ans, avait annoncé elle-même son contrôle positif. C'était le 7 mars dernier.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Ravi d'être en votre compagnie, Morgane Guériec, Chérubin Gaby Dorsil. Place au dossier du jour, Morgane.
Libération de l'Américain accusé de mercenariat en République démocratique du Congo. Daryl Lewis a été remis aujourd'hui à l'ambassade américaine à Kinshasa. L'enquête reste ouverte, explique la justice congolaise dans cette affaire très médiatisée visant l'opposant Moïse Katumbi. Nicolas Pineau a joint l'ambassadeur des États-Unis à Kinshasa. On écoute James Wan.
Oui, tout à fait. Nous pouvons confirmer la libération de notre concitoyen Daryl Lewis aujourd'hui. Et nous sommes très heureux que maintenant il soit en mesure de retourner près de sa famille aux États-Unis. Nous avons bien sûr signalé l'importance de cette situation près des autorités congolaises. C'est le cas pour n'importe quel citoyen américain qui est détenu quelque part autour du monde. Alors nous avons exercé nos responsabilités consulaires afin d'assurer qu'il soit bien traité selon les responsabilités judiciaires du Congo.
Daryl Lewis est-il un mercenaire ?
Bon, Monsieur Lewis est ici en tant que citoyen privé américain. Il n'a aucun rôle près du gouvernement américain. De toute façon, il a collaboré aux enquêtes des responsables judiciaires du Congo. Et nous sommes très heureux que maintenant, il va retourner aux États-Unis pour voir sa famille.
Quand rentre-t-il sur le territoire américain ?
Je crois qu'il va quitter la RDC ce soir et on espère qu'il arrivera très bientôt aux États-Unis. Mais de toute façon, en tant que citoyen privé, c'est à lui d'organiser son retour et son programme aux États-Unis.
Quelle est votre position concernant le climat de tension qui a lieu en ce moment en République démocratique du Congo ?
C'est une année décisive pour la RDC. C'est très important qu'on continue à avancer vers les élections libres et démocratiques et surtout de protéger l'espace politique pour tous les acteurs politiques, pour la société civile, afin de permettre aux citoyens congolais de s'exprimer librement, de s'organiser librement, afin de contribuer à l'avenir de leur pays.
Y aura-t-il des élections avant la fin de l'année 2016 en République démocratique du Congo, selon vous ?
Je crois que la Constitution est claire selon les délais envisagés. Évidemment, c'est la responsabilité des autorités ici, de la CENI et autres, d'assurer qu'on avance aussi rapidement que possible vers des élections crédibles.
L'ambassadeur des États-Unis à Kinshasa, James Wan, une interview à retrouver sur voaafrique.com.
VOA Afrique en RDC à Lubumbashi sur 102.8 FM.
Nous partons maintenant au Burundi. Le lac Tanganyika, un des plus profonds d'Afrique, regorge de poissons de renommée internationale tels que les mokeke et les ndagala. Certains sont exportés vers les pays voisins, d'autres consommés localement. Mais les prix ne cessent d'augmenter. Les pêcheurs doivent par ailleurs respecter les 6 jours mensuels où il est interdit de pêcher. Notre correspondant Christophe Furunziza s'est rendu à la plage de Kajaga, à 11 km à l'ouest de Bujumbura.
Des vagues matinales embrassent la plage du lac Tanganyika à Kajaga, dans la commune de Mutimbuzi, en province de Bujumbura rural. Les pirogues des pêcheurs ont accosté depuis l'aube, mais la pêche des ndagala, ces poissons qui nourrit beaucoup de familles burundaises de la plaine, n'était pas abondante au début de ce mois de juin. Quelques caisses de ndagala sont visibles sur la plage et des piroguiers qui attendent impatiemment que leurs frères et collègues reviennent vers les heures de midi avec d'autres gros poissons consommés dans la région comme le kouhé, les sangala et autres, mais à des prix exorbitants. habitants pour les poches des Burundais moyens. Haruna Naimana, surnommé Chanja, a commencé le métier de pêcheur quand il avait 8 ans. Aujourd'hui, il est âgé de 28 ans.
Nous pêchons normalement toutes les espèces qui sont dans ce lac Tanganyika. Il y a ceux qui pêchent le Ndagala, d'autres les Sangala, Isinga, Ibiramba, Ibidonde, et chaque espèce exige certains moyens pour les capturer. Il y a des poissons qui exigent la présence des filets que l'on achète en Chine, des filets qui ont de gros yeux tels que l'exige la loi. Et ça nous aide dans notre vie de pêcheur.
Haruna Nahimana revient sur la mesure du gouvernement burundais de ne pas pêcher pendant 6 jours le mois.
Normalement, un pêcheur a besoin d'aller dans le lac tous les jours, mais ces 6 jours de repos nous aident à aller voir la famille, les enfants.
S'il est vrai que le Ndagala est le poisson que l'on trouve souvent à cette plage de Kajaga, il arrive que de gros poissons soient capturés par les pêcheurs.
On peut acheter les gros poissons à 25 000, 25 000 soit entre 10 et 12 dollars américains. Ce sont des gros poissons, ils sont petits, ça varie entre 5 et 8 dollars américains. Mais ici, on ne trouve pas du poisson moukéké, car aux alentours, il y a beaucoup d'usines qui font couler des déchets et des acides dans le lac. Le moukéké aime l'eau dense et claire. Il y a des rivières qui déversent de l'eau sale dans le lac.
Sur cette plage, un petit commerce est né. Des mamans vendent le ndagala fumé, d'autres font des brochettes d'ndagala. Cette maman parvient à gagner au moins 1 dollar par jour quand elle est sur cette plage qui lui est fétiche.
Je me présente ici le matin avec 10 000 francs burundais que j'ai empruntés. Après vente, je peux gagner 1 000 ou 2 000 francs burundais. Je peux ainsi rembourser les 10 000 et les enfants peuvent avoir à manger avec cet argent gagné.
Le lac Tanganyika est le plus long lac de 12 du monde. Il est le deuxième lac africain par la surface après le lac Victoria, mais aussi le deuxième au monde par le volume et la profondeur après le lac Baïkal. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Dans Washington Forum cette semaine, retour sur la disparition le 3 juin dernier du champion Mohamed Ali, né Cassius Clay. Nous reviendrons sur la légende de la boxe qui aura définitivement marqué son sport et au-delà, mais aussi sur l'homme, ses engagements et ses coups de gueule. Ses obsèques auront lieu vendredi avec un parterre de personnalités pour lui rendre un dernier hommage. Qui était Mohamed Ali ? Quelles traces laisse-t-il dans le monde et en Afrique ? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Retrouvez-moi dans Washington Forum, c'est ce jeudi à 19h temps universel.
Triste nouvelle dans le monde du football, on en parle dans le journal des sports. Stéphane Keshi est mort à l'âge de 54 ans. Il avait gagné la CAN avec le Nigeria en tant que joueur et en tant que sélectionneur. Il est mort d'une crise cardiaque à Benin City, dans l'ouest du Nigeria. Et qui était Stéphane Keshi ? Nicolas Pineau a joint Claude Leroy, actuel sélectionneur du Togo et ami de Stéphane Keshi.
J'ai appris ça ce matin en atterrissant. J'arrivais de Lomé où il avait qualifié cette équipe pour la Coupe du Monde en 2006. Et vous imaginez à quel point j'étais atterré parce que c'est un vieux copain, même s'il était plus jeune que moi. Mais notre aventure a commencé à la finale 88 de la Coupe d'Afrique, dans laquelle il jouait quand on avait été champion d'Afrique contre le Nigeria en finale. Et puis on s'est retrouvé en 2006 quand j'entraînais la RDC à l'île Togo pour la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. Et puis... les deux dernières fois où on s'est vu, c'était avec le Congo-Brazzaville. Quand on a gagné à Calabar, il était l'entraîneur des Super Eagles. C'est quelqu'un avec qui j'ai toujours des relations très, très privilégiées, que j'aimais beaucoup comme joueur et avec qui il se passait beaucoup de choses quand on était tous les deux. On aimait parler de football ensemble.
Au-delà de son pays, le Nigeria, il a vraiment exercé sa passion dans beaucoup de pays, hein, notamment en Afrique.
Oui, c'était un vrai pro du foot qui grande carrière, en particulier à Strasbourg en France, quand il était joueur professionnel, défenseur de grand talent, intransigeant, mais bon techniquement, adroit dans la relance, et puis qui n'utilisait pas toujours sa puissance athlétique, qui respectait le jeu, puis après il a une vraie grande et belle carrière d'entraîneur. Je voyais ce que la fédération nigériane disait, hélas, toujours quand les gens sont morts qu'on reconnaît tous leurs talents, mais c'était une légende, et là le mot n'est pas galvaudé, c'est une vraie légende du football africain et qui avait eu cette caractéristique qui est assez rare de réussir après une grande carrière de joueur, une très grande carrière d'entraîneur.
Est-ce que le regret, c'est pas finalement, il y a eu ce titre évidemment à la CAN évidemment 2013 récemment, mais est-ce que c'est pas cette fin un peu en queue de poisson avec la fédération nigériane finalement?
Oui, mais qui n'a pas connu Nicolas de fin en queue de poisson avec la fédération nigériane? Je connais pas beaucoup. Ça a toujours été très compliqué. Il y a quand même, en tant que joueur ad hoc, que ce pays, s'il décidait un jour vraiment de s'organiser, il pourrait aspirer à devenir champion du monde, que ça devrait être le premier pays africain à devenir champion du monde. Mais à chaque fois, ils font tout pour se tirer des balles dans le pied. Et je pense qu'avec Stéphane, ils avaient un entraîneur bon, charismatique, qui avait beaucoup d'expérience, qui les avait amené à un titre de champion d'Afrique, ce qui n'est pas rien. Ils auraient dû le préserver, ils auraient dû au contraire le mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir encore aller plus loin. Mais c'est vrai que, par exemple, et là, cette défaite à Calabar, qui était la première défaite du Nigeria dans une compétition officielle depuis 40 ans, l'avait un peu fragilisé. Et je me rappelle, à la fin du match, j'avais dit « Écoute, je suis désolé, nous, on était heureux comme tout d'avoir gagné 3-2 là-bas, mais j'étais un peu triste pour lui de l'avoir mis dans une situation difficile. »
Claude Leroy, joint à Paris.
Présidentielle aux États-Unis, la bataille s'avère très rude entre la démocrate Hillary Clinton et le républicain Donald Trump. Malgré leur victoire dans les primaires, ils restent les deux candidats les plus impopulaires selon les différents sondages déjà réalisés. Mais quels sont les défis à relever par chaque candidat pour espérer gagner la Maison-Blanche en novembre prochain? Éric Manirakiza a joint à Miami le docteur du Centre international et professeur de sciences politiques et études africaines à l'Université de Floride, docteur Leonardo Villalon.
On n'a jamais vu un candidat comme Trump aux États-Unis dans l'histoire moderne des États-Unis au moins. Et il a des défis énormes puisqu'il a des avis défavorables d'une très, très grande majorité des Américains. Et il a réussi à insulter beaucoup de groupes sociaux très importants aux États-Unis, notamment les minorités, mais aussi les femmes et d'autres. Nous avons vu que la bataille pour la nomination pour Clinton a été beaucoup plus dure que prévu. Et puis qu'elle aussi, elle a quand même un code très important des gens qui ont une vision défavorable d'elle-même. Et donc, pour elle, le défi, c'est de pouvoir vraiment se positionner comme la seule alternative à Trump, raisonnable pour une grande partie de la population. Le défi très important de pouvoir unifier le Parti démocrate, qui a été quand même assez divisé. Les partisans de Bernie Sanders. Sanders a réussi à mobiliser une partie de la population, et notamment les jeunes, de façon extraordinaire aussi. C'est même parfois plus que Obama a pu faire en 2008. Et ces gens-là sont même très enthousiastes pour Sanders, mais pas pour l'instant très enthousiastes pour Hillary Clinton. Et donc pour elle, le défi, c'est de continuer cette mobilisation pour qu'à l'élection générale, ils voient leur intérêt à voter pour Clinton, même si ce n'était pas leur premier choix, pour éviter d'avoir une présidence de Donald Trump.
La campagne est surtout caractérisée par des attaques. On voit moins des projets de société. Est-ce que c'est une stratégie qui pourrait faire gagner le candidat le plus virulent?
Et du côté de Trump, pour l'instant, nous voyons qu'il ne propose pas quand même des grands projets. C'est surtout des attaques et une sorte de rhétorique qui dit « Aie confiance en moi, je suis différent des autres ». Nous voyons qu'il y a quand même une partie de la population américaine qui en a vraiment marre avec la classe politique globale et qui semble être prête à appuyer Trump. N'oublions pas qu'en fait, ce n'est qu'une partie des républicains. Et nous voyons un des grands défis pour Trump aussi sera de gagner en fait le vote des républicains eux-mêmes. J'imagine qu'une grande partie va abandonner.
Est-ce que le parti républicain aujourd'hui c'est un parti sans repère?
C'est absolument un parti sans repère. Trump ne soutient pas en fait les grandes lignes de ce parti en général. On a aujourd'hui dans le New York Times, l'éditorialiste Thomas Friedman, très connu aux États-Unis, a fait un article très très critique sur Donald Trump en parlant du fait qu'il nous faut un nouveau Parti républicain aux États-Unis qui reviennent sur l'idée avec une idéologie du marché, une idéologie centre-droite qui soutient des choses raisonnables et que on n'en a pas en ce moment aux États-Unis. Donc c'est une partie vraiment très divisée en ce moment.
Professeur Leonardo Villalon, joint à Miami en Floride.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme Top 10 American Music, l'actualité de la musique pop américaine. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001 202 619 31. 40. Vos SMS et WhatsApp au 001 703 350 37 31. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Lionel Gaïma. À la console, Joe Gill. Présentation, Morgane Yériac et Chérubin Dorsil.
Ainsi va Le Monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook et visitez voaafrique.com.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.